C'est bien, comme ça je peux te voir avec tes beaux cheveux. Je t'aime bien. Alors, ce matin, j'aimerais vous donner une petite méditation sur la pratique de la vie chrétienne. Et j'ai une question à poser pour commencer. Quel est le voyage le plus long sur la distance la plus courte? Quel est le voyage le plus long sur la distance la plus courte? Ça, deux déjà. Ne dites rien. Trois déjà. Intelligence spirituelle. Elisabeth.
La naissance.
La naissance. Oh, c'est pas mal, mais ce n'est pas ça. Jacques. Non, non, mais maintenant un homme. La vie. Ce n'est pas ça. Entrer dans quoi? C'est pas mal. Suivant. Voilà. Vous avez tous raison, mais c'est cela que je traite ce matin. Le voyage entre ce qui est dans la tête vers le cœur. Tout dépend de la grandeur de la personne. Ça peut être 32 cm, ça peut être 28, mais en général, on dit que c'est 30 cm. Le voyage de la tête au cœur. Alors, certaines personnes sont venus nous voir pour ce problème qu'il y a la connaissance mais pas l'expérience. Donc ce matin, c'est ça que j'aimerais traiter avec vous. Donc pour être concret, il s'agit de comment aller de la connaissance biblique à l'expérience de la vie chrétienne dans la vie de tous les jours. C'est-à-dire nos actions et nos réactions. Nos sentiments, nos pensées, nos attitudes, nos décisions à prendre. Je parle de cela. Donc il y a une connaissance biblique, on peut avoir la tête remplie de beaucoup de choses qu'on a apprises dans les réunions, par le calendrier, par la Bible, par la méditation, par toutes sortes de choses qu'on a faites, mais qui sont entrées dans la tête, mais qui ne sont jamais descendues dans le cœur et dans la vie de chaque jour. Il y a des gens qui viennent nous voir pour ça. Encore demain, il y a une personne qui vient me voir pour 2 ou 3 heures, un médecin chrétien qui a eu des responsabilités dans son église, il vient me voir et il a beaucoup de mal dans ces choses-là. Dans ce domaine-là, il vient me voir demain après-midi et il n'est pas le seul, il y a des hommes et des femmes qui sont venus, parfois des dizaines de gens, ils viennent dans les réunions, ils sont là le dimanche matin, ça va encore le dimanche après-midi, dimanche soir un petit peu et lundi, pratiquement on a oublié ce qu'on a dit dimanche matin. Et puis on a oublié de le faire déjà, on ne sait pas comment le mettre en pratique, alors j'aimerais parler de cela. Donc l'expérience de la vie chrétienne, des choses qu'on a apprises, mais qu'on n'a pas mises en pratique. Il y a des personnes qui sont venues me voir dans le passé, quand j'étais pasteur à Tourcoing, je me souviens encore une jeune femme qui venait me voir, chrétienne quand même pendant certaines années, et elle dit, John, ça va le dimanche, mais lundi, mardi, et ça devient de pire en pire après, c'est une schizophrénie spirituelle, la schizophrénie spirituelle. Vraiment divisé. Dimanche, ça va, mais pour le reste, c'est difficile. Ça va encore peut-être le vendredi soir parce qu'on a un moment de prière et puis on a des études bibliques, ça va encore, mais après cela, comment le mettre en pratique? Alors, la parole de Dieu, c'est très clair que c'est dangereux d'avoir seulement une grande connaissance des versets, des passages de la Bible, seulement une grande connaissance et pas la pratique. Parce que la connaissance enfle. La connaissance peut nous rendre même quel est le mot? Orgueilleux. Et s'il y a un péché qui est terrible aux yeux de Dieu, c'est l'orgueil. Alors on va voir comment aller de la tête au cœur. Comment est-ce qu'on met les choses de la part de Dieu, comment est-ce qu'on le met dans la tête? Comment est-ce qu'on peut obtenir cette connaissance? Alors je donne juste 3-4 points pour commencer. D'abord, je parle de la lecture de la parole de Dieu, la lecture de la Bible. Je viens de lire encore en 1 Timothée 4 que Paul dit à son fils spirituel, à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. C'est une chose qui n'est pas facile, mais applique-toi à la lecture. Et la lecture de la Bible, donc, c'est le premier point. Un des premiers versets que j'ai mis en musique, il est longtemps, il y a 40 ans en plus, c'est le psaume 119, verset 105. Et ça commence avec « ta ». Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et quand on pense à ce verset, il y a seulement quelques jours, je me suis réveillé et pendant la nuit, je pense à ce verset. Et on le chante et on peut l'apprendre par cœur, « Ta parole est une lampe à mes pieds. » Mais qu'est-ce que ça veut dire? Et je me suis dit, c'est quand même merveilleux. Dieu n'est pas une puissance, une force, mais il est une personne. Ta parole, tu parles, notre Dieu parle. Il parle directement à notre cœur, par les pensées qu'il peut nous donner, par des prophéties, par la parole de Dieu. Il parle, notre Dieu parle, il est une personne. Notre Dieu a un cœur, il va avoir le cœur à cœur avec vous. Ta parole, ce n'est pas la parole d'un homme, c'est ta parole. Ta parole est, pas sera, mais ta parole est. Et je commence à penser à chaque mot. Ta parole est une lampe. Où est-ce qu'on a une lampe? Je sais qu'il y a les mineurs qui l'attachent à leur tête, mais normalement, on a une lampe dans les mains. Et on en a besoin. Pourquoi on a besoin d'une lampe? Parce que ça se peut qu'on se trouve dans le noir. Ça peut être dans une cave, ça peut être pendant le voyage, pendant les vacances. On peut se trouver peut-être dans une forêt. Il n'y a pas de lumière, alors on a une lampe. On fait une promenade et puis on a besoin d'une lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds et notre vie est un voyage. Et notre voyage spirituel commence à la nouvelle naissance. C'est comme une naissance. Il y a des naissances qui vont rapidement, il y a des naissances qui sont courtes, mais quand on est vivant, vivant spirituel, nous avons besoin de la lumière de Dieu. Ta parole est une lampe. Et une lumière sur mon sentier, ça veut dire, c'est chaque jour, on va de plus en plus loin. Et ta parole, une lampe à mes pieds, ça veut dire, on a des pieds pour marcher. Dieu ne veut pas qu'on reste statique. Il y a des chrétiens que je vois, il y a 10 ans, et aujourd'hui, quand on parle avec eux, ils sont toujours au même point sur le plan spirituel, n'ont pas fait du progrès. Et Dieu veut qu'on fasse du progrès. Ta parole est une lampe à mes pieds. Et Jean 17, verset 17, dit clairement, ta parole est la vérité. Et en France, il y a un problème qu'on a eu souvent avec les jeunes dans le passé, dans les camps, quand on parle avec eux sur la parole de Dieu. Oui, oui, mais... Et puis on remet en question, on aime remettre en question, on n'est jamais sûr de rien. Et je crois que quand on a la parole de Dieu, et quand on ouvre la parole de Dieu, on peut dire, je n'ai pas à remettre en question ce qui est écrit là, parce que c'est la parole de Dieu et Dieu n'est pas menteur. Ta parole est la vérité. Heureusement, Seigneur, je sais où je suis avec toi. Ta parole est la vérité. Et Apocalypse, chapitre 1, verset 3, qu'il y a une bénédiction heureux celui qui lit. Il y a une bénédiction pour ceux qui lisent la parole de Dieu. Ça, c'est remarquable, tout cela. Alors, la lecture de la Bible, donc l'étude de la parole de Dieu, première chose pour mettre les choses dans la tête. Deuxième chose, c'est la mémorisation de la parole de Dieu. Et là, quand on ouvre la parole de Dieu, et on ouvre dans le psaume le plus long, c'est le psaume 119, vous le savez bien, alors souvent, le verbe « mémoriser » revient. Et vous savez, dans l'original, le mot « mémoriser » en hébreu veut dire « ruminer ». Comme les vaches qui ruminent. Quand j'étais à l'école, comme petit garçon, j'ai appris rapidement que nous avons un estomac, mais les vaches ont... 4 estomacs. Ne me demande pas pourquoi, mais c'est bien plus lent et c'est nécessaire pour extraire tout ce qui est bon de l'herbe qui est verte pour produire le lait qui est blanc par une vache qui est noire. Alors, il ne faut pas poser la question, mais c'est comme ça. Et puis donc, il y a dans la mémorisation, je parle d'abord la mémorisation, après je parle de la méditation, d'abord la mémorisation. Après, je prends la méditation. Alors, la mémorisation, c'est aussi dans le psaume 119, et il y a un verset que vous connaissez certainement très bien, c'est le verset 11. Et là, donc, l'homme le plus sage, il donne un conseil à son fils spirituel, ou son fils vraiment, son fils à lui, ou sa fille à lui, et il dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Mon fils, fais cela. Ma fille, fais cela. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Parce qu'on peut lire, on peut étudier, mais si on ne le retient pas dans sa mémoire, alors on l'oublie facilement. Et un jour, je me souviens bien, quand j'ai vu une Bible d'une personne, je crois que c'était dans une réunion en Angleterre, et j'ai trouvé quelque chose que je n'ai jamais oublié, et il avait écrit... C'est la Bible qui te tiendra loin du péché ou le péché qui te tiendra loin de la Bible. Et ça revient à cela. Je le répète. C'est la Bible qui te tiendra loin du péché ou c'est le péché qui te tiendra loin de la parole de Dieu. Et quand on vit dans le désordre, quand on vit dans une vie qui n'est pas en règle avec le Seigneur, alors on ne veut pas connaître la vérité. On ne veut pas entrer dans la lumière. On préfère vivre selon son propre goût et sa propre pensée. Alors, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Au début de ma conversion, je me souviens très bien, juste après, j'ai appris 4 versets de la parole de Dieu par cœur. C'était par le système de navigateur. Je ne sais pas si vous avez connu le navigateur. C'est les 4 vitamines de la parole de Dieu. Je me souviens, il y avait un verset sur le salut. Je crois que c'était Jean 1,12. À tous ceux qui l'ont reçu, la lumière, Jésus, à ceux qui croient en son nom, Dieu a donné le pouvoir, le droit, l'autorité, le privilège de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Première chose. En recevant Jésus, on devient enfant de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Alléluia. Ce n'est pas une religion, mais une relation par Jésus. Deuxième verset que j'ai appris par cœur, je me souviens très bien, c'est l'assurance du salut. 1 Jean 5, verset 13. Souvent, je l'ai nommé ici, je l'ai cité ici, 1 Jean 5, verset 13. Je vous ai écrit, parce que Jean, il a écrit beaucoup de choses, il vient de dire justement dans le verset 12, juste auparavant, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Il n'est pas de purgatoire. Celui qui a le Fils a la vie avec Dieu, donc relation. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu reste perdu. Et après, donc, il dit immédiatement, je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez. On peut savoir. La vérité est là, mais qu'est-ce que j'ai fait avec la vérité? Et donc, quand je me suis converti, le 9 novembre 1958... Avant cela, c'était une affaire de religion. Ma mère qui était catholique d'origine, mon père qui était protestant d'origine, je dis, mais quelle est la meilleure religion? Et ce jour-là, un dimanche soir, j'ai compris que ce n'est pas une affaire de religion, c'est une affaire de relation avec Jésus. Avec Dieu, par Jésus, son Fils. Et là, j'ai compris donc un petit peu plus de la croix. Parce qu'on a parlé de la croix ce matin. Et quand j'étais à l'Institut biblique à Bruxelles, on apprend beaucoup de choses dans la tête. Et un jour, parce qu'on pose des questions, et je me souviens que j'ai posé cette question justement au doyen, au directeur de l'école biblique. J'ai dit, mais vraiment, est-ce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que la croix pour être sauvé? Pourquoi la croix? J'ai posé la question. Et il m'a regardé, il dit, John, si tu trouves une autre solution, viens me voir. J'attends. Il n'y a pas d'autre. C'est Dieu lui-même qui est devenu homme. Dieu homme, il n'y a pas de solution, pas d'autre. J'ai un frère qui vit aux États-Unis. Il est dans l'avion en ce moment même. Il est arrivé chez nous mercredi, il est parti hier. Pour prendre l'avion, pendant 4 jours, on est ensemble. Et nous avons parlé sur la croix. Il y a un coup dans la voiture. Entre Ronc et Lille, nous avons parlé de la croix. Et il m'a dit, parce qu'il ne croit pas comme nous, il croit en Dieu, il croit que Jésus est un prophète, il est un apôtre, mais il n'est pas le Fils de Dieu. Et quand j'ai parlé de la croix, il a dit, il y a beaucoup de gens qui sont crucifiés, il n'est pas le seul. Et s'il est à le ciel, il a dit, je pense y aller parce que je suis une bonne personne. Et j'ai dit, Fred, si tu es une bonne personne, pourquoi Jésus est venu alors? Pas de réponse. Et je crois que la réponse, c'est la croix. On peut penser sur soi-même ce qu'on veut, mais devant Dieu, nous avons besoin de Jésus. Pourquoi Jésus est venu si nous sommes des bonnes personnes? Mais pour le faire comprendre à mon frère, c'est pas seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Tu peux raisonner ce que je veux. J'ai prié et il est venu et je l'ai vu. On est allé jeudi à Ypres. Vendredi, on est allé à Ostende. Et mon frère peut marcher encore un petit peu parce qu'il a des problèmes avec son dos. Je tire dans les jambes et dans son pied. Et il dit, si je me fais opérer, ça peut être que je sois paralysé pour le reste de ma vie. Donc, on ne m'opère pas. Alors, je dis, mais dans un sens, viens en France. Là, on va t'opérer, on va réussir ici. Nos États-Unis n'osent pas le faire. Et j'ai dit, Fred, est-ce que tu me permets de prier pour toi? Parce que si les médecins, les chirurgiens ont peur de t'opérer, je crois que Dieu peut agir. Est-ce que tu me permets de prier pour toi? Et il m'a permis. Et hier matin, j'ai prié pour lui. Au nom de Jésus, bien sûr. Même s'il croit que Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Moi, j'ai prié au nom de Jésus. C'est déjà bien qu'il a permis. La vie sans Jésus n'a pas de sens. Mais peut-être dans votre famille, parmi vos connaissances, vos collègues, il y a des gens qui ne croient pas. C'est seulement le Saint-Esprit qui peut le faire. Que Dieu peut le faire. Mais moi, j'en souffre de voir, j'ai deux frères qui ne croient pas, j'ai une sœur qui croit en Jésus, elle est femme de pasteur, elle croit fermement dans la parole de Dieu, elle croit en Jésus. Et je me suis dit, qui suis-je? 4 enfants, 2 qui croient, 2 qui ne croient pas. Quel privilège! Ce n'est pas parce que j'ai mérité quoi que ce soit, mais ce n'est pas grâce. Mais quand je vois mon frère qui souffre, et il ne se donne pas à Jésus, il dit, je peux prier, mais il m'a permis de prier pour lui, c'est déjà bien. C'est déjà magnifique. Prions les uns pour les autres. Prions pour nos frères et sœurs. Parce que c'est un privilège d'être enfant de Dieu. Et donc, c'est bien d'avoir la connaissance que Jésus est là. Mais moi, je crois que Jésus agit aujourd'hui. Et frères et sœurs, je crois que dans nos églises, nous avons besoin pas seulement de la connaissance, mais de l'expérience, de prier les uns pour les autres. Et je prie qu'il y ait des miracles, des merveilles. Tu as dit le mot merveille, Yann. Nous avons besoin de miracles, de merveilles dans nos églises. Parce que si les gens nous voient chanter, c'est bien de chanter tout ça. C'est bien d'avoir des petits messages, mais s'il n'y a pas la puissance, pas de merveilles, pas de miracles, pourquoi les gens viennent? Et je crois que moi, dans ma famille, je veux voir des miracles. J'ai prié pour mon frère. Prions les uns pour les autres. Vous pouvez prier pour Fred. Nous pouvons prier les uns pour les autres. Et Dieu va agir. Moi, je crois. Est-ce que vous croyez que Dieu va agir? Pourquoi prier autrement? Alors donc, il y a le salut, il y a l'assurance de salut, il y a la confession de péché, parce que quand on est enfant de Dieu, on peut tomber dans le péché. 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste. Dieu est fidèle. On a parlé de la fidélité de Dieu. Il est fidèle et juste. Il est fidèle parce qu'il a promis, il est juste parce que Jésus-Christ est mort sur la croix. Il est fidèle et juste pour nous purifier de toute iniquité. C'est comme on est comme un bébé. Et moi, j'aime bien sentir les bébés quand ils ne sont pas sales. La peau de bébé, c'est merveilleux. Et j'aimerais bien que nous ayons une bonne odeur pour le monde. John, Ian, Véronique, Annette, quand je suis avec vous, je me sens bien. Et quand Joël est entré ce matin, je dis, Joël, que tu sens bon. Et elle m'a dit un jour, j'aime bien le parfum. Que nous soyons le parfum du Seigneur. Quand les gens sont en notre compagnie, mais c'est bien d'être avec lui, avec elle. Alléluia. Nous pouvons l'être chaque jour quand notre cœur est pur par le sang de Jésus. Et puis il y a un autre verset, j'ai regardé, je ne vais pas le dire par cœur, c'est 1 Corinthiens 10, verset 13. C'est de temps en temps, il y a des tentations, de temps en temps, il y a des choses qui arrivent, mais Dieu est plus grand que nos tentations. Alléluia, 1 Corinthiens 10, 13. Donc il y avait les 4 vitamines de la parole de Dieu. N'oublions pas que les psaumes n'étaient pas seulement là pour lire, mais pour être chantés. Et quand on chante, ça va dans notre mémoire. Maintenant j'arrive au troisième point. Donc lecture premièrement, deuxièmement mémoriser, troisièmement c'est la méditation de la parole de Dieu. Et là je lis juste quelques versets en psaume 119 sur la méditation. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Verset 23, des princes ont beau s'asseoir et parler contre moi, ton serviteur médite tes statuts. Verset 48, Je lève mes mains vers tes commandements que j'aime et je veux méditer tes statuts, ta parole. 78. Qu'ils soient confondus les orgueilleux, qui m'oppriment sans cause. Moi, je médite sur tes ordonnances. Je médite. 97. Combien j'aime ta loi, ta parole. Elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Je trouve que c'est remarquable. Méditation, méditation. Je rumine, j'y pense. Ça veut dire que je pense à chaque mot. Qu'est-ce que Dieu a voulu dire? Et ça prend du temps parfois. Il y a des choses, donc, comme le psaume 119, 105, que j'ai mis en musique il y a plus de 40 ans. Je le connais par cœur, on l'a chanté, et il y a seulement une ou deux semaines, pour la première fois, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et quand on pose cette question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parfois, on prie. Nous prions. Nous prions parfois pendant 5-10 minutes avec le pilote automatique. On prie des paroles et on ne sait même pas ce qu'on est en train de dire. C'est automatique, des phrases qui viennent comme ça. C'est le pilote automatique. Seigneur, arrête-moi de prier comme ça. Je veux prier avec mon cœur et pas par le pilote automatique. Je veux, apprends-moi à prier. Les disciples de Jésus ont dit un jour, Seigneur Jésus, apprends-nous à prier. Parce que le monde prie aussi. On peut débiter les paroles. On peut dire prier. Parce que parfois, il y a quelqu'un qui dit dans une réunion, Love Day, est-ce que tu veux prier pour cette personne? Yann, est-ce que tu veux prier pour cette personne? Parfois, on n'est pas prêt à le faire, on le fait quand même, on vient, parce qu'on est poli. Mais ce n'est pas une chose facile de prier pour une autre personne. Ça veut dire être dirigé par le Seigneur. Comment prier pour la personne? Seigneur, apprends-moi à prier selon ton cœur. Inspire ma prière. Aide-moi de prier dans l'esprit. La prière est une chose qui n'est pas simple. C'est à apprendre parce que les disciples ont dit, apprends-moi à prier. Et parfois, on devient comme des boîtes à prier. Et Dieu dit non. Des moulins à prier. Dieu dit non. Apprends-moi à prier selon ton cœur, Seigneur. Avec tout mon cœur, sincèrement, selon ta volonté. Apprends-moi à prier. Et ça, donc, nous devons apprendre à méditer la parole de Dieu. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et vous savez, je vais vous dire quelque chose. Le même verset, psaume 119, verset 105, dit quelque chose pour moi, et pour toi, quand tu le dis, ça veut dire quelque chose d'autre. Parce que Dieu parle d'une autre façon, par un même verset. Amen. C'est pour cela que quand les gens disent, mais vous savez, vous protestants, vous l'interprétez de cette façon, nous catholiques d'une autre façon. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu parle à chaque personne ici d'une autre façon par le même verset. Amen. C'est comme ça, Dieu parle. Dieu est un Dieu qui parle, mais quand j'écris une lettre, et j'ai écrit cette lettre à mon frère Fred aux États-Unis, si vous lisez la même lettre, vous ne comprenez pas la même chose. C'est pas possible. Et quand on dit une parole, moi je peux vous dire quelque chose ce matin, et Véronique dit, ça veut dire ceci. Jacques dit, mais j'ai compris cela. Nous sommes tous différents, la même phrase ne dit pas la même chose. Et ce qui est difficile, encore plus difficile, quand c'est écrit, on n'entend pas le ton. Il y a une personne qui est venue une fois dans l'église à Tourcoing, où j'étais pasteur, et la personne était là 20 minutes avant les autres. La salle n'était même pas ouverte. Donc je l'ai vu venir, donc j'ai ouvert la salle. Je dis, ah, tu es déjà là, Evelyne? Et moi, j'ai été content de le voir, vraiment. Elle m'a appris, dit, ah, déjà, je suis trop tôt. Mais je voulais dire, j'ai été content de le voir. Tout dépend, même si on le dit. Alors, encore écrit, on n'a pas le ton, c'est pas facile. D'avoir un contact les uns avec les autres dans la bonne harmonie et dans la paix, c'est pas facile. Mais la parole de Dieu, là, par le Saint-Esprit, nous pouvons comprendre. Alléluia, Seigneur, tu es vivant. Quatrième chose, méditation, après, c'est la prière. Priez la parole de Dieu. Quand vous l'avez lu, priez-le. Seigneur, ta parole est une lampe avec pied de lumière sur mon sentier. Alléluia. Il y a des versets qu'on peut apprendre. Par exemple, priez la parole de Dieu. Je prends le psaume 119, 118. Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'est une prière sur la parole de Dieu. Ouvre mes yeux, Seigneur, pour que je contemple les merveilles de ta parole. Que je puisse le comprendre. Je prie, Seigneur, que je puisse comprendre ta parole. Prie la parole de Dieu. Et ça peut vous aider. Et je crois que le Seigneur veut que nous devenions, que John devienne comme un petit garçon qui s'émerveille. Des merveilles de Dieu. Parfois, nous avons pris l'habitude de la vie chrétienne, on dit le nom de Jésus, et ça ne touche plus. Nous ne sommes plus touchés par ce que nous lisons. Que le Seigneur nous aide de prier la parole de Dieu, l'appliquer à notre cœur. Par exemple, le psaume 37,4, que j'aime beaucoup. Alors là, vous le connaissez aussi par cœur, c'est un psaume que j'aime énormément. Je vais le lire. Malgré le fait que je le connais par cœur. Fais de l'Éternel tes délices, et Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est un verset. Et tu peux prier, Seigneur, je fais de toi mes délices. Et tu me donneras ce que ton cœur désire. Ce que mon cœur désire. Tu me donneras ce que mon cœur désire. Pourquoi Dieu va le faire? Parce que lui, il prend la première place. J'ai fait de l'Éternel mes délices. Seigneur, je veux faire de toi mon trésor, mon meilleur ami, mon conseiller, mon berger, la raison de ma vie. Prends la première place. Et quand on fait cela, bien sûr, le Seigneur va donner ce que mon cœur désire, parce que mon cœur désire, c'est ce que mon cœur désire, c'est lui. Vous le comprenez ce que je veux dire? Si Dieu a la première place, on ne désire pas les choses pour le faire mal. Quand on aime une personne, on ne va pas faire mal à cette personne. C'est ça pour moi l'amour. Quand je dis je t'aime, je suis marié depuis 45 ans passés maintenant avec Beryl, mais normalement je dis je t'aime chérie. John, est-ce que tu pourrais me donner une tasse de thé? Prends-le toi-même. Ça, c'est pas l'amour. Si on aime une personne, on veut plaire à cette personne. Moi, je le vois comme ça. Si on dit qu'on aime Dieu et on fait ce qu'on veut, alors ça rime à quoi? Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut être pratique. Alors, il y a une deuxième question. On a les choses dans la tête. Comment, ça c'est la question maintenant, comment se produit le transfert de la tête au cœur? Donc le transfert de la connaissance vers l'expérience. Comment ça se fait? C'est pas compliqué, vous savez. Vous connaissez le mot. C'est un mot de trois mots, de trois lettres. C'est le mot foi. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est par la foi. Et là, ça change tout. Verset 4, psaume 37, je viens de lire, et verset 5, ça continue comme ça. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Et là, j'ai eu mon expérience depuis 50 ans presque. 50 ans de vie chrétienne. Mets en lui ta confiance, et il agira. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance. Et vous savez, le mot confiance, ça veut dire le mot foi, et le mot foi, ça veut dire obéissance. Et pour moi, la parole de Dieu est merveilleuse, parce que merveilleuse, Dieu veut me faire du bien. Mets en lui ta confiance, je veux mettre en toi ma confiance, et ça veut dire donc confiance, foi, obéissance, joyeuse. Et ça, c'est pas toujours facile, on n'aime pas beaucoup le mot obéissance, mettre obéissance joyeuse dans la volonté de Dieu, ce que Dieu veut. Car ce qu'il demande n'est pas impossible. Premier épître de Jean dit que la loi de Dieu, les commandes de Dieu ne sont pas lourds, ne sont pas difficiles. Dieu est là pour nous aider. Ce qu'il demande, ce n'est pas impossible. Alors Dieu peut faire beaucoup de choses pour vous et pour moi, mais il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Il est le Dieu Tout-Puissant, mais il y a une chose qu'il ne peut pas faire. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qui peut m'aider? Comment?
Imposer.
Dieu ne peut pas croire à ma place. Dieu peut faire beaucoup de choses, mais il ne peut pas croire à ma place. C'est à moi de le croire. Dieu propose, et après cela, c'est à moi de l'accepter ou non. Ça, c'est de l'obéissance. Obéissance joyeuse. Pourtant, ce n'est pas difficile. Un enfant, un petit enfant, plus tard ça change, mais un petit enfant, il croit que sa maman va lui donner de la nourriture le matin à midi et le soir. Il a confiance, il ne pose même pas la question. Et moi, je veux vivre comme ça. C'est confiance en toi, Seigneur. Tu seras avec moi tous les jours. Tu me protégeras sur la route. Je veux te plaire. Je veux être sage. Je demande pour la sagesse souvent, Seigneur, j'en ai besoin. Et j'ai confiance en toi. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, la foi, vous savez. Et quand on prend la galerie de la foi en Hébreux chapitre 11, nous voyons des hommes et des femmes comme vous et moi, et on lit chaque fois, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi qu'Enoch a marché avec le Seigneur, et un jour le Seigneur l'a pris. C'est par la foi que Noé, il a construit l'arche. C'est par la foi que Joseph a fait ceci. C'est par la foi que Moïse est parti. C'est par la foi. Et souvent, nous ne marchons pas par la foi. C'est un petit peu connaissance, mais nous ne sommes pas prêts à mettre notre foi dans la connaissance que Dieu nous a donnée. Et on reste comme ça, et ça reste stérile, et on devient religieux. Et Dieu, il a horreur de la religion. Il ne peut pas sentir ça. Les sadduciens, ils étaient religieux. Et parfois, nous chrétiens, on devient religieux. On a des connaissances, on chante avec le pilote automatique, bien sûr. On prie pour le pilote automatique. On va dans les cultes, pilote automatique, parce qu'il faut aller quand même de temps en temps comme ça. On se voit les uns les autres. Et Dieu en a heureux. C'est juste une habitude seulement. Et notre cœur n'y est pas. Et moi, je ne veux plus ça. Depuis longtemps, le Seigneur m'a touché. Depuis longtemps, le Seigneur m'a montré. Il veut que nous prions avec notre cœur, nous vivions avec notre cœur. Confiance. Alors donc, il y a un changement quand on commence à croire. Et je vais juste prendre une petite histoire et je vais lire avec vous Luc 5, versets 1 à 11. Maintenant, on arrive dans le Nouveau Testament. Une histoire très connue et il y a 5 petits points. Luc 5, 1 à 11. Et là, Luc est un homme qui était médecin. Je crois que ce qu'il a écrit, c'est la vérité, inspiré par Dieu. Et il parle de Pierre. Et Pierre était aussi un homme comme vous et moi. Avec son caractère à lui, nous avons tous notre petit caractère. Luc 5, 1 à 11. Alors Jésus, donc, il aime bien faire connaître la parole de Dieu, la connaissance de Dieu. Et comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézaret, il y a 3 ou 4 amis qui étaient là. Récemment, il y a 2 semaines, ça va vite. Et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, Jésus vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, à Pierre donc, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. » Mais, et ça je l'ai enregistré, je l'ai souligné dans ma parole, « Mais, sur ta parole, je jetterai les filets. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand ils virent cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que moi je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui, et tout ce qui était avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Et il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. Donc ça, c'est une histoire très connue, mais je vais juste relever 5 petits points. Quelque chose qui fait qu'on comprend mieux le transfert de la connaissance vers l'expérience. Le transfert de la tête au cœur. Alors, première chose que je vois dans ce passage, que Pierre et ses associés se trouvent dans une situation assez pénible, difficile. Ils ont fait des efforts, ils ont travaillé toute la nuit, et qu'est-ce qu'ils ont attrapé comme poisson? Niette. Rien. Nothing. Nits, en hollandais. De nada. Rien. Nada. C'est pas beaucoup, hein? C'est vraiment pas beaucoup. Donc ils ont travaillé pour rien, comme on dit en Marseille, rien. Alors, ça c'est la première chose. Deuxième chose, Jésus est là, le Fils de Dieu lui-même, et lui, il connaît tout. Il sait où les poissons se trouvent. Il s'occupe même des petits poissons, des poissons rouges, des poissons gris, des poissons plats, des plis, des sols, Carlet, de Saint-Pierre. Pierre, il s'intéresse au Saint-Pierre. Poisson. Grande bouche. Parce qu'il y a même Pierre dedans. C'est entendu aussi cette histoire. Donc Pierre est là, et Jésus est là, et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il communique sa puissance, sa connaissance à Pierre. Et il dit ce que Pierre doit faire pour attraper les poissons. Car Jésus sait où les poissons se trouvent. Ça, je trouve, c'est merveilleux. Jésus sait tout. Troisième chose, et ça, c'est du miracle. Maintenant, le mot foi. Pierre, miracle, il croit dans la parole de Jésus. Parce qu'il sait que Jésus est un grand pêcheur. Il sait faire la pêche. Pas du tout. C'est quand même formidable. Un homme qui n'est pas, il ne fait pas la pêche. C'est un prédicateur. C'est un prêcheur, mais pas pêcheur. Donc quand on pense, un gars qui est costaud, certainement Pierre, alors un homme comme ça qui prêche bien, il dit, continue maintenant, fais ce que je te demande. Alors Pierre doit faire pour avoir des poissons, que Jésus sait où les poissons se trouvent. Donc Pierre croit dans la parole de Jésus et Pierre obéit. Il dit, sur ta parole. Et ça, c'est pour moi le miracle. Parce que tu le dis, moi je le fais. Quatrième chose, il y a un effet énorme dans le verset 8. Quand Pierre a vu cela, il voit maintenant qu'il attrape beaucoup de poissons. Quand Pierre a vu cela, Simon Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que moi je suis un homme pécheur. Maintenant Pierre, il a beaucoup de poissons dans son filet. Mais il laisse tout cela, puis il laisse tout, et il va suivre Jésus après. C'est le cinquième point, il faut le faire. Et ça, c'est une réaction. Seigneur, moi, je suis rien sans toi, je suis perdu sans toi. Sa conscience a parlé, son cœur a parlé. Hop, la tête, il y a quelque chose qui ne s'est pas dit dans son cœur. Et si cela arrive, ça va changer ta vie. Si ça n'arrive pas, tu peux venir pendant des années dans des réunions, et rien qui change. Si tu ne crois pas vraiment ce que Dieu te dit. Alors là, je trouve ces remarques. Il y a une rencontre entre Pierre et Jean, avec Pierre, Jean et Jacques, avec Jésus. Donc, une rencontre entre Jésus et Pierre, ici. Et c'est là que Pierre, il reçoit son appel. Et moi, je crois, dans certaines réunions, Dieu veut te parler, il dit, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Un nouvel appel, un autre appel. Dieu l'a fait pour moi un jour. Il m'a appelé à son service en plein temps. Et quand j'étais en plein temps, je pense à leur travail parmi les enfants, parmi les jeunes. On a fait des camps de jeunes, j'ai fait stage de moniteur et Berry de monitrice. Et puis après ça, mon stage de direction, j'étais directeur. On a fait la musique, on a fait des CD. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Des cassettes, on a fait des pièces musicales. Et après cela, le Seigneur me dit, halt, quelque chose d'autre. Et après cela, donc, j'ai été pasteur pendant un certain temps, 25 ans. Et le Seigneur dit, halt. Et après cela, on est dans la relation d'aide. Et après un certain temps, le Seigneur dit quelque chose d'autre. Mais les gens nous mettent souvent dans une cage. Ils veulent bien, mais je pense que tu étais appelé à ça. Oui, ce qu'eux ils pensent. Mais le Seigneur a quelque chose d'autre. Nous devons entrer là, ce que le Seigneur a pour nous. Et ça, c'est très important que je vous dis ce matin. Écoutez le Seigneur. Ça se peut qu'il y ait quelque chose de nouveau pour vous. Ce n'est pas sur ma feuille. Mais écoutez le Seigneur, et chaque fois, j'ai remarqué, quand il y avait un changement que le Seigneur voulait pour moi, qu'il y avait des personnes autour de moi qui ne comprenaient pas. Mais ça, c'est pas important, les autres, c'est le Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur veut me dire? Par des circonstances, par sa parole, par son Esprit Saint. Seigneur, je suis là. Qu'est-ce que tu veux me dire? Et ça change ta vie quand tu reçois un appel. Parce que Pierre n'a jamais pensé d'abandonner et d'être pécheur. Il pensait que c'était pour la vie. Et le Seigneur dit, je veux faire de toi un pécheur d'homme. Et ça, Pierre n'avait jamais pensé à ça. Ça, c'est rapide. Hein? Jésus n'a pas dit, ah, maintenant tu as ta conversion, et maintenant tu vas faire l'institut biblique pour 3-4 ans, et après on va voir ce que tu vas devenir. Immédiatement, je veux faire de toi un pécheur d'homme. Et je trouve ça, c'est remarquable. Et je crois qu'il y a des gens qui sont convertis, ça se peut que le lendemain déjà, ils amènent une autre âme au Seigneur, parce qu'ils sont tout feu aux flammes. Et parfois, après un certain temps, on ralentit, mais c'est quand même pas si facile que ça, on commence à raisonner le raisonnement de l'homme, dangereux. Donc par cette rencontre, tout change pour Pierre. Et moi je trouve que c'est ça une chose que je veux dire ce matin. Dieu peut nous parler par un passage ou par un autre. Il y avait une jeune femme de 16-17 ans qui était dans notre réunion à Tourcoing, réunion de jeunes. Elle venait fidèlement. Elle s'appelle Nadia, d'une famille sicilienne, si j'ai bien compris. Et elle était dans le groupe de jeunes, elle venait tous le samedi. Et un jour, Nadia n'est pas venue. Et 2-3 jours plus tard, j'ai compris pourquoi. Elle est venue me voir. Et elle dit, John, tu sais ce qui est arrivé ce week-end? Mon frère a tué mon père. Mon frère était en train de chasser dans le jardin. Il avait un fusil. Il était en train de tirer sur les oiseaux. Et mon père est en haut, premier étage. Il regarde mon frère et dit, arrête ça. Et mon frère a continué. Et mon père a dit la deuxième fois, arrête ça. Et mon frère a pris son fusil, il dit, c'est comme ça, il a tiré sur son père, il l'a tué. Et moi, j'ai connu la famille, le papa, la maman, toute la famille, 6-7 enfants. Et quand cet homme donc, a été touché, il a marché encore en bas, et Nadia était en bas. Cet homme, il a pris l'escalier, il est tombé en bas, elle dit, c'est moi qui a ramassé. C'est le sang, tout le reste, c'est moi qui a pris le serpillère, tout cela, mon père était mort en bas. Triste pour la famille, parce qu'il connaît bien la famille. Et Nadia me dit, il y a un verset qui m'a aidé. Et je vais le lire avec vous. Dans l'Ancien Testament, il y a un verset qui était la consolation pour cette jeune femme. Ésaïe 43. Versets 1 à 3. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël, ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Ne crains rien, Nadia, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. Je suis l'Éternel, ton Dieu. S'il y a le feu, ça ne te touche pas. S'il y a les eaux, je serai avec toi. Elle dit, c'est vraiment un passage de la parole de Dieu. Dieu était avec moi dans ce moment difficile. On peut être submergé par des moments difficiles. Elle était dedans, parce que quand même c'était très triste. Elle était touchée, elle était portée par la parole de Dieu. Et je me souviens encore une fois, elle a continué à venir dans les réunions. Et un jour, j'ai prêché sur un passage, je ne me souviens pas du tout sur quoi. Et il y avait une application, j'ai dit, le Seigneur dit ce matin aux uns aux autres, fais-le maintenant, do it now, fais-le maintenant. Et le lendemain, ou une semaine plus tard, elle est venue me voir, elle dit, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur veut que je quitte mon travail et que je vais travailler dans ce centre chrétien pour les enfants en Belgique, Tournebride. Il y avait là un centre. J'ai dit, mais comment? Le Seigneur m'a parlé. Tu as parlé dans un message et le Seigneur dit, c'est pour moi. Et je crois que ça, c'est remarquable. Parce que parfois, on entend un message, ça peut être par un prédicateur, par une prédicatrice, je ne sais pas si ça existe. Ça peut être directement par la parole de Dieu ou par une feuille de calendrier chrétien. Le Seigneur peut nous parler. Ou est-ce qu'on lit ça? C'est beau. Encore une feuille. Encore un message. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Et vous savez, il y a, pour terminer, il y a une dame chrétienne qui est allé voir un psychiatre chrétien avec le même sujet que je traite ce matin avec vous. Et elle a dit, j'ai des choses que j'ai entendues ou des choses de la parole de Dieu que je lis. Mais il n'y a rien qui me touche. Et elle a avoué une chose, elle dit, je n'ai pas pleuré pendant 15 ou 20 ans. Je me suis endurci. Et vous savez ce que cet homme a fait? Il dit, je vais vous donner un passage. Je vous donne, vérité, je l'ai à la maison. Je vous donne Ésaïe 43, verset 1, 2, 3, ce que je viens de lire avec vous. Vous allez le lire, lisez-le tous les jours. Et moi, je crois, il dit que Dieu va vous toucher. Donc, elle dit, « Ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Les fleuves, ils te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Vous pensez qu'elle était touchée? Pas du tout. Après 2 mois, elle a revu ce médecin chrétien, et il a dit, comment ça va? Elle a dit, rien. Il n'y a rien qui change. Je le lis tous les jours, mais ça ne me fait rien. Il dit, continue. Elle a encore lu 2-3 mois. Et après, elle est revenue, et elle a dit, je ne peux plus m'arrêter de pleurer quand j'ai vu ça. Elle a commencé à pleurer après 4-5 mois. Parce qu'elle était touchée par la parole de Dieu. Et parfois, ça prend du temps. Nous voulons être... C'est comme le self-service, directement, Dieu me parle, maintenant, hop, c'est pas comme ça parfois. Est-ce qu'on s'arrête? Seigneur, parle-moi. Et cette femme, elle dit, après 15-20 ans, elle n'avait pas pleuré. Elle dit, je ne peux pas m'arrêter de pleurer quand je pense l'amour de Dieu. Dans toutes mes circonstances, je serai avec toi. Je te connais par ton nom. Et vous savez, si nous ne sommes pas touchés par notre cœur un jour ou un autre, on commence à s'endurcir de plus en plus. Et je crois que c'est ça que Dieu veut, pour moi en tout cas, et aussi pour vous, je suis sûr. Dieu veut vous parler, mais prenez le temps, ce n'est pas le self-service. Et je crois que dans notre société, on est tellement pressé, on n'a plus de temps. On ne sait plus méditer, on ne sait plus vraiment prendre le temps pour le Seigneur. On ne sait pas prier, attendre ce que Dieu veut. Et moi, je crois fermement pour vous ici, que Dieu vous a répondu à vos prières et vous n'avez pas vu la réponse. Parfois, nous avons demandé, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Et Dieu t'a montré quelque chose et tu ne l'as pas vu. Et ça, c'est grave. Je crois que Dieu veut nous parler. Il veut vous montrer le chemin. Ne soyez pas entêtés. Et ça, j'ai ça sur ma feuille. Parfois, nous avons des excuses. On m'a dit des choses dans le passé. C'est vraiment une petite illustration encore. Parfois, on m'a dit, mais John, tu es entêté. Tu es vraiment entêté, tu bourriques. Et vous savez, j'ai dit, mais non, je ne suis pas entêté. Je suis persévérant. Parce qu'on a toujours une excuse. Je suis persévérant, je ne suis pas entêté. On m'a dit parfois, par exemple, mais tu es impatient. Mais non. J'ai dit, très spirituellement, je n'ai pas le temps à perdre. Il y a une autre chose qu'on peut dire, mais John, tu es susceptible? Je dis, mais non, pas du tout, je ne suis pas susceptible. J'ai une sensibilité spirituelle. On a toutes sortes d'excuses, mais Dieu dit, arrête maintenant ton cirque. Arrête un petit peu, pense à moi, qu'est-ce que moi j'ai pour toi? Tu es susceptible, tu es entêté parfois, j'ai quelque chose d'autre pour toi. Et le Seigneur m'a montré, va là où je veux. N'écoute pas les hommes, va là où je veux. Et mon plan pour toi est parfait. Ma volonté est parfaite, merveilleuse. Et je crois que Dieu a un plan pour vous. Mais je vais prier pour vous ce matin. Et vous pouvez prier pour moi. Qu'on entre vraiment là ce que le Seigneur veut. Et ça se peut que Dieu a quelque chose d'autre pour toi. Dans ta famille, dans ton travail. Quelque chose d'autre de plus. Plus près de lui. Mais ça prend du temps. Ça se peut que Dieu te parle ce matin ce qu'il a. Mais ça peut aussi... prendre du temps. Que Dieu éloigne de nous cet esprit de self-service rapide. Cet esprit de McDonald's. Dieu a quelque chose, Dieu est plus grand que tout ça. Notre Dieu est patient. Nous ne le sommes pas, nous sommes impatients parfois. Nous voulons directement, immédiatement. Et moi, je suis touché par les gens qui étaient patients avec moi, qui ont montré l'amour. Et je crois que la première chose que nous devons apprendre, frères et sœurs, ce n'est pas notre connaissance, mais c'est être imbibé par l'amour et la patience, la compassion de Jésus. Et ça que j'aimerais pour moi-même. Seigneur, donne-moi cet amour. Parce que sans ton amour, rien. Ce matin, j'ai mis le BBC un petit peu, le radio, et j'ai entendu une dame qui a lu dans un passage, 1 Corinthiens 13. Tu peux faire brûler même ton corps. S'il n'y a pas l'amour, rien. C'est bon, hein, l'amour? Dieu veut qu'on va le vivre. On va prier ensemble? Alléluia. Si vous voulez vous mettre debout, on va prier ensemble. Seigneur, ce matin, avec mes frères et sœurs, nous venons en ta présence pour te demander ta bénédiction sur nous, sur notre cœur, sur notre être profond. Je demande vraiment, Seigneur, que tu nous touches, que cette semaine, que tu nous parles, Jésus-Christ, vivant, ressuscité, par ton Esprit Saint. Même un verset, Seigneur, même des choses qu'on sait depuis longtemps, souffle sur nous, que nous puissions comprendre ce que tu veux dire par tout cela. Je demande, Seigneur, que tu éloignes de notre cœur et de notre vie toute habitude, toute tradition de l'homme, mais que nous puissions vraiment entrer dans la vie en abondance avec toi. Plus de routine. Seigneur, tu veux que nous vivions avec toi l'aventure de la foi. Je demande pour mes frères et sœurs, Seigneur, qu'ils puissent mettre ce matin, même une petite foi, une foi de l'enfant en toi, en ta parole. Je demande, Seigneur, ce matin, que tu nous donnes cette sensibilité spirituelle de ne plus avoir des excuses, mais de nous voir de temps en temps, Seigneur. Parfois, nous avons un caractère de cochon encore. Seigneur, change tout cela. Nous voulons avoir le caractère de Jésus. Seigneur, je demande vraiment ce matin que nous ayons des attitudes qui sont selon toi, des pensées selon toi. Touche notre cœur, que nous puissions entrer dans ton chemin pour notre vie, ton plan pour notre vie. Seigneur, je demande pour une sensibilité spirituelle pour chacun, chacune. Seigneur, nous voulons être en ta présence. Parle-nous. Comme Samuel, parle, Seigneur. Ton serviteur écoute. Seigneur, merci ce matin. J'ai senti vraiment qu'il y avait un intérêt pour ta parole. Et ça commence avec ça. Seigneur, un intérêt pour toi. Un grand intérêt pour toi. Un amour pour toi. Un amour grandissant pour toi. Seigneur, je demande maintenant. Il y a des frères et sœurs qui ont prié pour une certaine chose pendant un certain temps. Pour longtemps peut-être. Je demande que tu ouvres nos yeux maintenant pour voir ta réponse. Peut-être ta réponse est venue déjà. Ouvre nos yeux pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole, les merveilles de ta réponse. Au nom de Jésus, que ta bénédiction soit chacun, sur chacun et nos familles. Sauve les âmes, Seigneur. Que nous puissions être le bon parfum de Jésus-Christ. Accompagne-nous tous les jours. Protège-nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Soutiens-nous. Fortifie-nous. Dirige-nous. Réponds à ma prière, Seigneur. Pour nous et nos familles et pour cette assemblée. Seigneur, pour ton Église entière. Sauve les âmes. Et je demande, avec mes frères et sœurs, ce matin, c'est pour la première fois que je fais ça, Seigneur. Donne-nous un président selon ton cœur en France. Seigneur, s'il te plaît. Un homme ou une femme qui te craint, qui te connaît. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.